Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTV FM.
RTV FM.
RTV FM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Toujours aussi heureux de vous retrouver pour parler de sport. 1h30, 100% sport. Avec mes animateurs préférés. Bon, Valérie, elle est passée, passer un petit coup de téléphone, je lui dirai bonjour tout à l'heure, mais il y a Alexandre. Salut Alex.
Salut Lionel, bonsoir à tous.
Ça va ?
Ça va, nickel, et toi ?
Ouais, bah t'as vu un peu le tournoi destination ?
Ah oui, mais là, la semaine dernière, c'était sympa, entre l'élimination du PSG et la France qui gagne ce week-end, c'était beau.
Ouais, c'était sympa, ouais. Bon, le PSG, remue pas le couteau dans la plaie, il y a peut-être des supporters du PSG qui nous écoutent.
Bah, tant pis
même
pour eux.
Même s'ils sont pas bons.
Tant pis pour eux.
N'empêche que les Guignols, par contre, ils ont fait une belle parodie sur le PSG.
Ouais, j'ai vu, ouais.
Bono, salut Bono.
Salut Lionel.
Ça va ?
Ça va.
Et comme je t'ai sous les yeux, tiens, ça tombe bien parce que, chers auditeurs, vous avez peut-être pu, en milieu de semaine dernière, avoir un petit problème d'écoute parce qu'effectivement, au niveau de la radio, on a eu un petit problème sur les ondes. Et parce qu'il y a l'antenne, en fait, le câble d'antenne.
Le câble qui s'était décroché de l'antenne.
Il s'est décroché.
Il a fallu monter sur le toit.
Voilà. Et donc, je tenais au nom de toute l'équipe, à remercier les 5 bénévoles, parce que ce sont les bénévoles qui sont montés sur le toit. Il y avait donc Alain, il y avait Bruno, il y avait Willy, il y avait Dominique.
Il y avait Florian.
Florian, les 5. Voilà. Les 5 mousquetaires. Bravo.
Et il y avait un gars de la mairie aussi qui nous a donné un coup de main.
Voilà, tout à fait. Bien, grâce à vous, ben on arrive à nous entendre et c'était dans la foulée, donc c'était jeudi. Merci vraiment à vous cinq. Alors aujourd'hui, on va parler de sport. Comme vous le savez, c'est les Jeux Paralympiques. Je le dis comme vous le savez parce que c'est vrai que moi, ce qui m'énerve un petit peu, on aura l'occasion de revenir là-dessus, c'est que les Jeux Olympiques, on en parle matin, midi, soir et toute la nuit. Les Jeux Paralympiques, il faut connaître le canal pour y aller et il faut, voilà, faut bien s'assurer. Donc là-dessus, c'est d'autant plus que la France est quand même deuxième pour l'instant au niveau des médailles, ce qui n'était pas arrivé depuis un petit bout de temps, parce que il y a 4 ans, je crois qu'ils étaient 4e ou 5e. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était une petite parenthèse. Et pour en parler, donc, j'ai 2 invités. Donc tout d'abord, Roland Davot, président du comité départemental olympique et sportif du Vaucluse. Bonsoir Roland.
Bonsoir Lionel et bonsoir à tous les auditeurs.
Tu vas bien ?
Très très bien.
Ravi de t'accueillir. Tous les ans, tu viens nous voir.
Oui.
Et ça fait plaisir.
Avec grand plaisir.
Oui, mais c'est réciproque. Et tu n'es pas venu tout seul. Tu es venu avec le nouveau, on peut dire nouveau encore, hein ? Nouveau président du club handisport du Comtat-Venaissin, Jocelyn Dalmau. Salut Jocelyn.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien et toi ?
Ah bah écoute, impeccable. Ça fait combien de temps que tu es président ?
Ça fait 1 mois à peu près aujourd'hui.
Ah bah oui, donc 1 mois. Donc justement, on aura l'occasion de parler de ce club qui œuvre beaucoup sur le territoire du Comtat-Venaissin. Mais avant cela, bien entendu, nous allons parler un petit peu des résultats. Bonsoir Valérie, hein, parce que je te disais bonjour à tout le monde, mais tu étais au téléphone.
Oui, j'étais au téléphone.
Il était fructueux ?
Non, ça, c'était pas bon.
C'était pas bon ? Bon, mais écoute, tant pis alors.
Voilà. Allez. Ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. Oui, je vais pas. Donc, j'en ai pas tellement de résultats. On va parler essentiellement de foot. Hein. On va juste donner un résultat au niveau de l'ABC de Carpentras, hein, qui jouait samedi. Il y avait les seniors garçons qui jouaient contre Vitrolles, donc à Vitrolles. Et malheureusement, Carpentras s'est incliné 60 à 100. Il y avait aussi du.
Combien ?
60 à 100.
Ouh.
Ouais.
Il y avait aussi. Tu l'as dit vite quand même le score, c'est pour ça.
Voilà. Non, 60 à 100. Il y avait du hand. Donc la Nationale 2, donc féminine à Mazan, elles se déplaçaient à Vaux-en-Velin et elles se sont inclinées 31 à 22. Donc voilà. Ensuite, chez les moins de 18 ans, bah, Mazan qui recevait Thuir et là aussi, Mazan s'est inclinée 25 à 33.
Ah, donc, c'est la tuile. Hein.
Oui, c'est une année un peu difficile. Hein. Mmh. Un peu difficile pour Mazan. Mais Nationale 2.
Comme tu disais la semaine dernière, ils sont passés en Nationale 2.
Tout à fait. Donc le niveau est monté. Hein, c'est
forcément.
Normal, hein. Et puis voilà. Donc, mais l'année prochaine, elles feront mieux. Elles savent, voilà.
Ça s'amène dans combien de temps ?
Bah, il y a quand même là, il y a les matchs retour là. Oui, il y a quelques matchs encore.
Elles peuvent se rattraper un petit peu.
Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que les derniers matchs, elles doivent les mettre à profit pour mieux jouer, pour trouver des actions, enfin ça y est, j'ai un trou.
Un trou.
Voilà.
Des stratégies.
Des stratégies, voilà, à mettre en place et les faire. Voilà, c'est tout. Hein. Les travailler.
Oui.
Travailler, la défense apparemment aussi. Bon, voilà. Et là, je passe au foot, Parce que bon, on aura du rugby à 13, mais Alexandre nous en parlera tout à l'heure, oui, puisqu'il oui. y a eu un match à Carpentras et assez surprenant apparemment. donc là, je passe du foot avec Rhône Durance. Donc en D1, c'était la 18e journée. Il y avait Barbantane-Perne. Perne s'est encore incliné 1-0. Carpentras-Sorgue 3-1 pour Carpentras. Au classement général, Carpentras est deuxième à juste 2 points du premier Barbantane. Et Perne est 12e sur 14. Donc ensuite, ouais. En D2, poule B, donc, il y avait l'Étoile d'Aubune, Saint-Rémy 0 partout. Monteux-Graveson 3-2. Et Saint-Didier-Ventoux-Sud 1 partout. Au classement général, Monteux est 5e. L'Étoile d'Aubune 7e. Et Saint-Didier est 11e. En D3, poule A, donc l'Étoile d'Aubune, L'Oriole 4-1, Monteux-Camaret 2-3, Saint-Didier-Saint-Saturnin 0-3. Donc Monteux est 6e au classement général, l'Étoile d'Aubune 7e, L'Oriole 13e et Saint-Didier dernier 14e.
Saint-Didier combien ?
Dernier 14e. Mais Saint-Didier bah cette alors, année, ils ont du mal, hein, ils se retrouvent en fin de tableau de partout. Hein.
Oh, c'est pas bon du tout.
Mais c'est pas grave.
Ah, mais c'est pas pour moi, c'est pour toi.
Bah, moi, c'est pas grave. Hein, tu sais,
Alexandre,
moi,
nous, on.
Oui, nous.
Ils bon. Peuvent que remonter.
Voilà. Exactement.
Ils sont en bas. Ils sont sur le plancher.
Merci. En D3, poule B, donc Carpentras-Piolenc 0-1. Caderousse-Caron 3-0. Donc, tu vois, là aussi, Caron, il s'est pris une volée. Et Malocène-Sarian 1 partout. Au classement général, Carpentras est 4e à 51 points, donc à 6 points du premier Jonquière. Et à deux tout petits points quand même du deuxième, hein, 53 points.
Ah oui.
Il y a Caron, donc cinquième avec 49 points, et Sarian qui est 11e avec 34 points. En D4, poule A, Mondragon jouait contre Serre, et Serre a fait match nul, un partout. Serre est 10e avec 35 points, très 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 loin des premiers et même de la troisième place. Voilà. Et enfin, c'est tout. J'allais m'arrêter là. J'allais dire, j'ai pas grand chose cette année, enfin cette semaine à mettre sous les dents, hein, sous la dent. Bon, c'est le retour des vacances scolaires.
Il y avait quand même la semaine de la femme la semaine dernière avec le sport.
Oui.
Avec.
Il y a eu. Ah, j'ai pas eu de nouvelles, tiens, de notre copine du ping-pong pour savoir.
Voilà.
Exactement, du tennis de table, pardon. Tennis de table, pour savoir comment ça s'était déroulé. Donc, si tu nous écoutes, je sais que la semaine dernière, elle nous écoutait. Hein, bah, si tu peux m'envoyer un petit mail, je me ferai un plaisir de dire comment ça s'est passé.
Très bien. Il y avait donc rien d'autre ?
Non, rien de spécial. Après, bon, c'est du national, mais ça, on peut en parler tout à l'heure.
Bon, alors, le rugby à 13 à Carpentras, ça donne quoi ?
Eh ben, Carpentras recevait Ville-Gaillenc, donc un club plutôt bien classé, hein, 4e. Oui. Selon Carpentras est 6e.
C'est ça.
Et Carpentras s'est imposé 30 à 24.
Ah. Donc,
une bonne performance pour Carpentras. Qui est à égalité avec Lescure au classement 5, qui est 5e Lescure.
Ouais, ils sont passés 5e Carpentras.
Ils sont à égalité avec.
Mais il y a un match de retard pour Carpentras.
Il y a un match de retard pour Carpentras, donc la 5e place elle est jouable, et sachant qu'ils ne sont pas très très loin du 4e Ville-Gaillenc qui a 33 points. Donc bonne opération pour Carpentras.
Bon, on va voir ça parce qu'on va avoir Maxime Pala en duplex, hein, qui est le manager de l'équipe première. Parce qu'il faut savoir quand même que l'équipe est affaiblie quand même. Hein.
Oui, il y a 7 joueurs en moins là.
Il y a
7 titulaires
Maffre
en moins.
Maffre qui est blessé, Casal, Teboul, Delic également. Donc eux, ils sont blessés. Après, il y avait Bergeon qui n'était pas disponible. Il y avait également la suspension de 2 joueurs. Richard pour un match et Matéléon pour 3 matchs.
Mais
il y a du monde quand même.
Et pourtant.
Et ils ont fait appel à qui?
Ben,
à vous là?
Non.
19, non?
Ah, je sais pas. Non, mais ils ont trouvé les ressources nécessaires en tout cas.
C'est bien en tout cas.
Puis c'est un très beau match apparemment.
Dans tous les cas, ils ont gagné.
Ils s'y attendaient pas, hein, et ils ont gagné.
C'est une belle victoire.
Ouais.
C'est bon pour
le match.
Non, j'ai complètement zappé.
Moi aussi.
J'ai un week-end
de folie, moi.
Très agité.
Ah, c'est ça. Les ados, c'est ça. Roland, je passe. Non, t'as pas d'ado toi. Mais les ados, ils sont toujours débordés en fait. Il se lève à midi.
Non, je me lève jamais à midi. Je me lève jamais à midi.
Pardon, 11h30. Voilà. Il y avait autre chose ?
Après, du sport national.
Bah allez, on continue.
On continue ?
Ouais, soyons fous.
On commence avec quoi ? Rugby ou foot ? Choisis.
Bah foot.
Foot ? Tu commences avec le foot ?
Ouais.
Bon, bah, on va commencer
avec
le
rugby.
Ligue.
Après, on va pouvoir parler des tournois destination.
Oui, on va pouvoir parler de plein de choses. On va commencer donc avec la Ligue 1. En résultat important, on va noter la victoire de Monaco à Strasbourg 3-1. Bon, Paris qui gagne 5-0 contre Metz, ça c'est comme d'habitude. Lyon a gagné 1-0 contre Caen. Nice est allé gagner 5-2 à Guingamp. Et Marseille s'est imposé 2-1 hier à Toulouse. Donc au classement, Paris est premier, deuxième Monaco, troisième Marseille, quatrième Lyon. Et dans le bas de tableau, on retrouve 18e 3, 19e Lille et 20e Metz. Sachant qu'il y a eu un gros incident, je ne sais pas si tu as vu, pour le match entre Lille, Lille qui recevait Montpellier.
C'est une honte.
Les joueurs sont les supporters sont descendus pour frapper les joueurs.
Ouais, c'est lamentable.
C'est une honte.
Il y a l'ancien entraîneur qui a fait également qui a répondu à ça, mais il faut qu'il y ait une grosse sanction par rapport à cet événement. C'est inadmissible.
Ah oui, complètement. Sachant que c'est vrai qu'ils ont.
Parce que ça peut être lourd de conséquences.
Hein. Oui, parce que la colère des supporters, elle se comprend, mais après, de là, les descendre et frapper les joueurs...
T'en penses quoi, toi, Laurent?
Moi, j'appelle ça des voyous, moi.
Hein, Roland, t'en penses quoi, toi?
Ouais, ça a été un spectacle pitoyable. Moi, le sport que je vois, c'est sur le district Grand Vaucluse. Ça donne un exemple qui est terrible. Et c'est les répercussions que ça va avoir sur le sport du territoire.
Mais parce que les jeunes regardent ça.
Mais absolument.
C'est les références, quoi, les joueurs. C'est vrai que.
Après, je pense que la commission va statuer. Exactement. Je pense qu'il faut faire confiance là aux instances.
Le problème, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il y a des accrochages, soit joueurs avec le public, soit le public qui descend, etc. C'est vrai qu'on le voit à Marseille, hein, par exemple. C'est vrai qu'il y a des fois avec Marseille aussi, c'est compliqué.
Bon, ça s'est calmé à Marseille.
Ça s'est calmé, mais il y a eu le problème.
Oui,
je ne dis pas aujourd'hui, heureusement. Hein. Oui. Il y a eu le problème avec Lyon-Saint-Etienne, il y a maintenant l'événement qu'il y a là. Donc,
répondre plus à la question, il y a à la fois la question de la sanction, mais quelque part, je pense qu'il va falloir faire aussi un travail plus général
sur le
club et sur l'ensemble de l'attitude qu'on doit avoir quand on est supporter.
Tout à fait. Déjà que les supporters arrivent à accéder au terrain, c'est pas normal.
Ah oui, c'est ahurissant déjà qu'ils se jettent en plus à.
C'est la question que je me suis posée. Comment ils ont réussi à arriver sur le terrain? Normalement, tu peux pas accéder.
Il y a des barrières, il y a des agents de sécurité, mais bon, tu sais, quand il y a une meute qui arrive.
Quand il y a trois stadiers pour 300 supporters.
C'est ça.
Ouais, mais c'est justement parce qu'ils ont fait des économies et ils ont moins de stadiers, donc il y avait moins de sécurité. Là, il y aura un problème, de toute façon, qui va être soulevé, parce que quand on les voit, ils débordent tranquille.
Ah oui.
Ils sautent les barrières tranquille. Et on voit, il y a moins de gardiens, donc de sécurité. On le voit bien. Mais je pense qu'ils en ont déjà pris conscience de ce problème-là.
Et ils sont combien au classement?
Lille, ils sont 19e. Ah, mais Lille, ils font une saison catastrophique, sachant qu'ils ont été rachetés l'été dernier.
Mais je pense que c'est pour ça aussi que les supporters ont pété les plombs. Mais c'est pas une raison.
Ils sont à cran.
C'est pas une raison. Voilà, ils sont à cran, mais c'est pas une raison. Voilà. Ouais. Parce que la faute, c'est surtout au niveau de l'équipe. Hein. C'est comme Marseille, il y a les bons où ça allait pas.
Lille, déjà, au niveau économique, va peut-être être relégué. S'il y a des problèmes encore comme ça, ils vont être relégués en national et sera terminé. Quoi. Donc, il faudrait réagir.
Bon, on va suivre l'affaire. Il y avait autre chose?
On va passer au rugby.
On fait une petite pause, et puis à ce moment-là, comme ça, on passe au rugby juste après.
Ouais,
allez, nickel. À tout de suite.
Want you bad, saw you in the moonlight. Think you're looking fine, want you bad. Got me good, never turn back. Make you mine. Coming for the taking, promise you I'm wearing the crown. Number one, spin your head around.
You got to pull up, pull up, pull up, if you want. you need, I got it. Louis shoes, cop boots, top down. You, diamond juice, all I see is you. Right now, you, all I want is you. You, tunnel vision, you, you. All I need is you, I'ma bet it on you.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio, juste après cette petite pause musicale avec David Guetta et Afrojack. Avant de continuer de parler de rugby, on va parler de rugby à 13 hein, avec la rencontre de ce week-end. Et on est au bout du fil, Maxime Pala. Bonsoir Maxime.
Et bonsoir tout le monde.
Tu vas bien Maxime ?
Merci de nous accueillir encore.
Bah, écoute, c'est toujours un plaisir, hein. Tu es manager de l'équipe première. Alors hier, il y avait le match de Carpentras qui jouait contre Villegayenc. Villegayenc quatrième au classement, Carpentras avant le match d'hier était sixième, et vous avez fait un très très bon match, vous avez gagné 30 à 24. Quel est le bilan, quel bilan tu peux en tirer de ce match?
Ah ben c'est un bilan positif, puisque voilà, il y a les trois points à la sortie, il y a une victoire à la maison, qui est toujours importante pour le moral, et celle-ci elle est vraiment bienvenue, parce qu'on en avait besoin, après une grosse déconvenue chez le leader Bao, la semaine d'avant, où on a quand même pris 58 points à 10. Voilà, il fallait relever les manches, quoi. Donc on est heureux que les garçons aient bien répondu aux exigences des coachs cette semaine, et des dirigeants également, parce qu'on était quand même un peu au pied du mur. Et donc là, on se félicite de la victoire d'hier, et puis en espérant que ça en amène d'autres dès dimanche.
D'autant plus que cette victoire est d'autant plus méritante parce que vous aviez quand même pas mal de joueurs sur le banc. 4 blessés, 1 qui était indisponible, 2 suspendus. Ça fait beaucoup quand même.
Ouais, on a pas mal de... Il nous manque des joueurs, donc c'est les aléas des saisons. Et donc, on va féliciter tous les protagonistes, les 17 joueurs qui étaient sur la feuille de match. On a eu 2 réservistes qui nous ont donné également un coup de main. Et qui ont fait un bon match. Vraiment, là, toute l'équipe est à féliciter, quoi, parce que c'est vraiment une victoire collective et qu'on attendait depuis un moment du côté de la Roseraie. On a retrouvé des joueurs qui ont joué soudés et qui ont cru en leur chance, en fait, parce que c'est vraiment c'est le mental qui a été force sur ce match-là et ô combien important dans le rugby à 13, on le sait. Donc on souffle ce lundi matin, on avait le sourire dans Carpentras, ça fait plaisir. On va essayer de préparer sereinement le derby qui s'annonce à nous dès dimanche à Entraigues.
Parce que là vous êtes passé cinquième à égalité, je crois, hein, c'est ça?
Alors là on est égalité avec l'Escure.
C'est ça qui est cinquième, quatrième?
Chez qui on va se déplacer le 1er avril. Pour la dernière phase des matchs retour. Donc,
c'est
certainement ce match-là qui va jouer. Quoi. Il sera hyper important. Quoi.
Oui, parce que en fait, si j'ai bien compris, ce sont les 6 premiers qui jouent les phases finales. Donc vous étiez 6e, vous êtes passé 5e. Mais c'est vrai que il ne faut pas relâcher parce que c'est vrai que la 6e place n'est pas très très loin. Donc vous êtes à la 5e place. Voilà, il ne manque pas grand-chose pour se maintenir pour les phases finales.
On fera le calcul sur le dernier match à l'Escure, mais là, il y a Bao qui s'annonce le derby contre Entraigues ce dimanche, et on reçoit ensuite Lyon pour aller après se déplacer à l'Escure. Donc là, il y a vraiment deux matchs importants où il faut prendre les points sur les deux matchs. Ça nous ferait 6 points à 30 points, et après, on calculera le dernier match à l'Escure. Pour voir quelle place nous ira le mieux pour les phases finales.
Donc ça, c'est le plus important, c'est vraiment de jouer à fond les deux prochains matchs. Hein.
Là, il faut pas se poser de questions, il faut engranger de la sérénité, et la sérénité, elle vient en gagnant. Hein. Donc là, il n'y a pas de secret. Hein. Donc pour finir fort, il faut engranger des victoires. Voilà, on a encore une équipe, une coupe Elite 2 qui aura lieu au mois d'avril. Et on est qualifié directement en quart de finale contre Salon. Et donc c'est un match qui se déroulera à la Roseraie.
À quelle date?
Donc il y a encore de beaux matchs à la Roseraie qui vont arriver. Quoi.
Et ce match-là, est-ce que tu connais la date ou pas?
Alors ce match-là, il va se jouer au mois d'avril. C'est un des premiers week-ends d'avril.
D'accord.
J'ai pas la date exacte là à vous donner, mais c'est le quart de finale de la Coupe Georges Hélière, qui est une nouvelle coupe depuis qui date de l'année dernière, et qui est un challenge, en fait, une Coupe de France qui ne concerne que les clubs d'élite 2. Voilà.
Donc vous êtes toujours en course pour cette coupe?
On est en quart de finale, et il sera joué à la Roseraie, et on a tiré l'équipe de Salon, donc il y aura un derby provençal. Donc ce match-là peut nous envoyer directement en demi-finale. Donc,
parce que ce sont
on va jouer crânement notre chance pour essayer de ramener un petit titre à Carpentras.
Ce ne sont pas des matchs qui se jouent en aller-retour, c'est vraiment un match unique.
Voilà, c'est sur un match ferme, tout à fait.
D'accord.
Et l'équipe de Salon, elle est de votre niveau largement ou vraiment au-dessus?
L'équipe de Salon, on l'a négocié il n'y a pas très longtemps chez eux. On a gagné quand même sur un score assez large. Donc ce sera un beau match à la Roseraie, mais on a vraiment toutes nos chances de gagner à la maison, quoi. Si les garçons réitèrent le match qu'on a vu ce dimanche contre Vidgayenk, je pense qu'on a de quoi faire peur à n'importe quelle équipe.
Et puis les 4 joueurs blessés, vous allez pouvoir les récupérer d'ici la fin de la saison ou pas forcément?
Donc là, on a perdu 2 joueurs sur longue blessure. Ils sont Danilo Delic, Alexandre Teboul, qui se sont blessés tous les deux aux épaules contre Salon. Donc clavicule, ils en ont pour 3-4 mois.
Et Maffre et Casal?
Saison terminée. Joris Casal, blessé au genou, saison terminée également.
Oh là.
Donc on a perdu 3 joueurs et quelques joueurs suspendus, des petits bobos. Donc,
mais Richard, il va pouvoir revenir. Il était suspendu pour un match. Donc c'était le match
Jordan hier, Richard a pris un match, donc il peut être aligné ce dimanche. Après ça, c'est les coachs
qui décident.
L'équipe va être compliquée à monter, je pense, pour aller entrer, parce que il y en a qui vont vouloir rentrer, mais ceux qui ont joué ont fait un bon match, ils voudront pas sortir de l'équipe. Donc je pense que cette semaine, les entraînements seront sympas, je pense. Eh oui.
Ça va certainement tirer l'équipe vers le haut, alors. Ça va bouger un petit peu dans les vestiaires.
C'est ce qui est important, oui, tout à fait.
Bon, mais écoute, on va vous souhaiter un gros mot hein, pour le week-end prochain et même pour la fin de saison, en tout cas pour la fin de ce mois-ci, hein, parce que ce mois-ci, c'est vraiment un moment important.
Tout à fait.
Et puis, on aura l'occasion de venir vous voir. En tout cas, merci beaucoup Maxime Pala, hein, manager de l'équipe première, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis, on aura l'occasion de reparler refaire le bilan.
À très bientôt sur les terrains.
Merci. Allez, Maxime, à bientôt.
Merci, à très bientôt, Maxime.
Merci, bonne soirée.
Merci.
Allez, au revoir. Donc, on revient dans les studios, hein, mon petit Alexandre.
Oui.
Pour parler de rugby à 15.
Oui, on va commencer avec le top
14. Le meilleur
14.
Sport, quand même, le rugby à 15.
Non, le 13, c'est le meilleur. Là, c'est pas le même sport.
Non, pour Roland qui est là, qui comprend pas trop, c'est vrai qu'on a mis, une opposition tous les deux. Je
légère.
Supporte l'ASM. Alexandre, il a pas le droit, il supporte Toulon.
Toulouse.
Là, pour vous départager, je serai rugby à 7.
Rugby à 7. Non,
il a raison.
C'est génial.
Surtout l'équipe du Kenya.
Ah, je sais pas.
Surtout l'équipe du Kenya. Ah, si, l'équipe du Kenya, ils sont géniaux.
Ouais.
C'est la première équipe africaine à gagner autant au rugby. Oui. C'est génial.
Bon. Alors, au niveau français, tiens.
Oui, au niveau français, il y a eu le top 14 ce week-end, en parallèle avec le tournoi à destination, auquel on y reviendra plus tard. Montpellier recevait le Racing et ils les ont bien corrigés 41-3. Le Racing a pris une belle gifle et c'est assez surprenant. Toulon gagne 54-5 contre Agen.
Oh!
Ça aussi, c'est assez...
assez les Bruno, ils ont eu du mal
c'est
à passer
dur.
Cela.
Hein. Là, ça a dû être dur. La Rochelle a perdu à Pau 18-15. Clermont gagne à Brive 11-9.
Tu peux, pardon, le dernier score que tu as dit, tu peux...
Clermont a gagné à Brive 11-9.
Ça n'a pas été trop dur à dire?
La victoire...
Non, ça c'est fait. Non, ils sont en train de remonter, mais bon, même
ils ont pris des points. Clairement, ils ont pris des points. Voilà.
Toulouse a perdu contre Lyon à domicile 20-27.
Ouais. Ah oui.
Alors qu'on a gagné à Lyon.
Ah.
Ouais, c'est ça qui est pas
de chance.
Ouais. Et le Stade français a gagné 23-17 contre Castres. Donc au classement, Montpellier est deuxième. Premier. Au classement,
Roland, tu voulais rajouter quelque chose, Roland?
Non, je pense que ça peut quand même interroger sur l'équilibre du championnat.
Oui.
Tous les internationaux ont quitté leur club pour la destination.
Bah là, on voit que c'est équilibré. Hein.
Ouais, mais attends. Alors,
il y a quand même
pas mal de joueurs étrangers qui jouent dans le championnat français.
Ouais, en fait, t'enlèves Toulon. Regarde, il y a que Toulon et Montpellier qui ont des gros scores. Hein.
Oui, mais Toulon, il a combien d'étrangers?
Ils ont que ça.
Voilà. Exactement.
Non, mais c'est ça
ce qu'on disait la semaine dernière. Il n'y a pas de locaux
et,
là-bas.
Et pourtant, tu sais ce que c'est ? Tu sais ce que c'est le pire ? C'est que c'est l'un des meilleurs centres de formation en France.
Ben oui.
Ben oui, c'est
meilleur
ça.
Centre de formation et il n'y a que des étrangers dans l'équipe.
Et il y a un joueur qui joue dans le 15 de France qui est le centre de formation, c'est Aurillac, qui est un pro des deux.
Ouais.
Et qui joue, bien sûr, en équipe de France. Donc très très bon. Ouais. Allez, on continue. Allez,
c'est bien, donc au classement, Montpellier est premier, le Racing est deuxième, Toulon est troisième, Toulouse quatrième, Pau cinquième et Lyon sixième. Et dans le bas de tableau, on retrouve Brive à la 13e place et Oyonnax à la 14e place. À noter que ton équipe, clairement, elle est passée de la 10e place à la 9e place.
Ah, bien, oh, voilà, tu vois,
quand même.
Ah, ça remonte.
Remonte
hein.
C'est
ça.
Et bah, là, après, on va passer au tour à destination. Parce qu'il y a eu un tournoi à destination quand même ce week-end. Il fallait enchaîner. D'abord, il y a eu l'Irlande contre l'Écosse. L'Irlande a gagné 28-8 contre l'Écosse. Mmh. Bon, succès logique. Hein. De toute façon, l'Irlande va gagner le Grand Chelem normalement.
Attends, la semaine prochaine.
Par contre, franchement, l'Écosse, ils n'ont pas eu de bol.
Ouais.
Les passes qu'ils ont ratées, ils auraient pu marquer deux essais sur deux passes lobées.
D'accord.
Voilà. Franchement, l'Écosse aurait pu au moins tenir, voire faire un match nul avec l'Irlande.
Oui, mais ils n'ont pas terminé, donc l'action.
C'est pas grave.
Voilà.
Mais c'était un très très beau match. Hein.
Oui,
on voit quand même qu'il y a une différence avec l'équipe de France. Les joueurs irlandais ou écossais se jettent sur toutes les balles.
Ah oui.
Ils se défendent sur toutes les balles. Nous, les Français, c'est compliqué.
Bon, tu critiques, mais on a gagné les Anglais quand même. Parce que ce week-end, on a gagné l'Angleterre 22-16. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ça a été chaud.
C'était chaud, mais on les a gagnés.
Les minutes étaient longues.
Le renvoi.
Alors là.
Ah, le coup de pied de génie. Hein. Ah,
ils auraient perdu, je pense, dans les vestiaires.
Rien que sur le coup de pied, il devait perdre le match. Rien que sur le coup de pied qu'il a fait, il devait perdre le match.
Non, mais c'est
sûr. Parce
qu'il a dégagé dans ses 20 mètres en plus et un Anglais. Très intelligent.
C'est ça.
Pour un numéro 10 d'expérience. Ils nous ont bien vendu la mèche.
Par contre, Trinduc a été très très bien.
Trinduc a été bon. Avec Machenot, bonne.
T'as regardé un peu le match sur Roland ?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Et ils ont failli, ça a été chaud en fin de deuxième mi-temps parce qu'ils ont changé complètement la charnière. Excuse-moi, hein, Roland, je te coupe la parole. Ils ont changé la charnière. Pas mal d'effectifs. Oh, par ta femme, pas par moi. Donc, ils ont changé pas mal d'effectifs et là, ça a été la cata. Hein.
Oui, puis surtout, sur la fin de match, on a failli se prendre un essai à cause d'un enchaînement de fautes consécutives qui ont été assez impressionnantes. Et rien que pour ça, on aurait dû perdre aussi.
Et par contre, au niveau de la première ligne, c'est vrai que le pilier, comment il s'appelle
Guirado ?
Non, l'autre. Non, c'est talonneur, Guirado. Bah, celui qui est trop faible en mêlée et qui se fait siffler par tous les arbitres.
Ah oui.
Benarous ?
Non.
Benarous, t'es sûr ?
Pour réviser vos fiches, hein, quand même.
Ah, mais totalement. Alors là.
T'es sûr que c'est pas Benarous ?
Belazi.
Bon, alors, ce que je vous propose,
on regardera.
On fait la pause musicale et on revient juste après. Allez, c'est parti.
Tic-tac, 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 je suis seul et j'entends tic-tac, tic-tac, je suis seul et j'entends tic-tac, tic-tac, je suis seul et j'entends.
Je peux réparer les pots cassés qu'on s'est offert. Quand on est bien ensemble, on est dans une autre sphère. Pas la peine de parler, je comprends quand tu soupires. Le langage de l'amour n'a pas besoin de sous-titres. Malade et pour nous soigner, y a pas de toubib. Tu as mon cœur dans tes mains, comment veux-tu que je t'oublie? Tic-tac, je dois rigoler à mes petites blagues. Quand je suis sans toi, je flippe, grave. À nous deux, la victoire. Tu veux savoir ce que tu es pour moi? Je veux savoir ce que je suis pour toi. Je veux savoir pourquoi je perds la raison. Tu es tout pour moi. Tu veux savoir ce que tu es pour moi. Je veux savoir ce que je suis pour toi. Tu veux savoir pourquoi tu perds la raison. Je suis tout pour toi. Tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac. Tic tac. Je suis seul et tu te mets à ma place, je me mettrai à la tienne. Je répondrai toujours présent si tu m'appelles. Comme si on était connectés. Je ressens ton mensonge et ton honnêteté. Je me fatigue avec les mots car ils sont pas assez puissants. Une petite voix me dit vas-y, même si c'est épuisant. Tic tac, quand t'es là pas besoin de mic mac. Je veux pas connaître la fin de l'histoire, mais à nous deux la victoire.
Tu veux savoir ce que tu es pour moi. Je veux savoir ce que je suis pour toi. Je veux savoir pourquoi je perds la raison. Tu es tout pour
Je suis seul et j'attends. Je vais te le dire sans langue de bois. J'ai voulu t'oublier dans d'autres bras. Quand il fallait leur dire je t'aime, je n'avais plus de voix. On s'éloigne sans se concerter. C'est peut-être une histoire de fierté, mais la vie passe vite. Viens, on arrête de s'éviter. Tic tac, tic tac. Je suis seul et j'entends tic tac. Tic tac, je suis seul et j'entends.
Sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Rebonsoir à tous, si vous nous rejoignez, bah écoutez, soyez les bienvenus. On est en direct sur le 102.2 depuis le studio de Carpentras-Serre avec nos deux invités, Roland Davo, président du CDOS 84, le comité départemental olympique et sportif. C'est un petit peu long, mais en tout cas, il fait beaucoup de choses dans le département et même au niveau national. Roland Davo, salut Roland.
Bonsoir.
Je parlais du CDOS, hein, mais toi aussi tu fais au niveau...
Oui, j'ai bien compris.
Et tu es venu avec Jocelyn Dalmo, président du club Handisport du Comtat. Rebonsoir Jocelyn.
Bonsoir.
Donc, on était en train de parler justement de Rabah Slimani, hein, juste avant. Hein, on cherchait le pilier du 15 de France qui est à la hauteur, mais c'est vrai que depuis quelques temps il se fait siffler par les arbitres et honnêtement quand on voit le pack,
le pack français fait que des fautes depuis le début du tournoi,
c'est lui, il en fait pas mal.
Quand on a perdu le match contre l'Écosse, on a perdu parce qu'on a dû faire une quinzaine de fautes en mêlée d'affilée
et ils l'ont pas changé.
Et non, mais c'est ça le problème, c'est que après il a pris même Rabah Slimani, il est assez vieux, il a quoi, il a 30 ans déjà, 31 ans dans le rugby au niveau international pour des joueurs comme lui. Pour des piliers surtout, c'est assez, assez vieux. Et surtout qu'il y a beaucoup plus, de joueurs un peu meilleurs que lui. Quoi, genre...
bah, c'est ça le problème. Parce que honnêtement, quand... oui, il y a des piliers meilleurs que lui. Et on voit qu'il a fait quand même pas mal de bêtises. Et il est dans le combinateur des arbitres. Hein. On voit lors des mêlées de...
Le match contre le Pays de Galles, il va se faire très surveiller.
Et par contre, là aussi, c'est ce qu'il faut revoir, c'est la deuxième ligne. Hein. Parce que la touche, ça a été catastrophique.
La touche a été difficile. À part Camara. Oui. Le seul Camara qui est pour moi, lui, ça va être le futur deuxième ligne de l'équipe de France, indiscutable jusqu'à la fin de sa carrière. Ça va être comme du sautoir, lui.
Mais la France a gagné, je ne me rappelle plus.
Oui, la France a gagné.
Parce que j'entends vos critiques, j'ai l'impression qu'on a perdu.
Alors, non, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, la France a gagné, pas parce qu'elle était bonne, tout simplement parce que l'Angleterre était mauvaise.
Donc l'Angleterre, deuxième nation mondiale, d'accord.
Ouais. Oui, l'Angleterre, deuxième nation
mondiale. Oui, mais là, pour l'instant, je pense qu'elle va perdre...
J'essaie de comprendre.
Elle va perdre un petit peu son titre, quand même, parce que l'Irlande, à mon avis, va gagner le grand chelem.
L'Angleterre, je pense qu'ils... Là, le tournoi, ils sont cassés, en fait. Ils se sont détruits eux-mêmes le tournoi en perdant déjà contre l'Écosse. Niveau mental, même niveau pour le groupe, je pense que ça n'a pas été bon du tout. Parce qu'ils sont arrivés en Écosse avec un peu beaucoup de fierté, les mains dans les poches en disant on va tout gagner. Et ils se sont pris une petite raclée et ils sont repartis chez eux tranquilles. Ils sont revenus en France avec la même attitude un peu hautaine, tout ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Hein. Parce que quand tu veux jouer un peu en surestimant, tu seras jamais bon.
Bah, on verra. Bon, le prochain match, c'est la semaine prochaine.
Prochain match, je crois qu'ils jouent contre...
Le Pays de Galles.
Non, c'est nous contre le Pays de Galles.
Ah oui, voilà.
C'est nous contre le Pays de Galles et l'Angleterre, ils jouent contre l'Italie, je crois.
Mais bon,
l'Irlande, ils jouent contre l'Irlande.
Mais bon,
c'est Angleterre,
le match
non,
de
c'est
la France
finale,
va être beau parce qu'ils sont stimulés, parce qu'ils ont tellement eu, et Roland le disait bien, c'est vrai que même quand ils gagnent, on est persuadé qu'ils ont perdu. Mais que la semaine prochaine, en fait, ils sont tellement stimulés parce qu'ils ont été critiqués.
Faudrait confirmer.
Et même Guerrado, hein, Guerrado les a critiqués, les a fustigés aussi parce qu'ils voyaient un petit peu l'état dans lequel ils étaient à la fin du match.
Oui,
voilà, c'était compliqué.
Alors certes, ils ont mis énormément de cœur, ils ont gagné, ils ont fait une belle victoire. Félicitations à eux, ils ont fait leur match, même s'ils n'ont pas été, incroyables. Là, maintenant, là où ça va, où on va prouver les choses, c'est si on arrive à enchaîner une troisième victoire au Pays de Galles, parce qu'on gagne en France, mais ce serait bien de gagner aussi dans les autres pays. Aller chercher une petite victoire au Pays de Galles, je pense que ce serait une vraie preuve que l'équipe de France revient.
Et toi, Jocelyne, tu suis un petit peu le rugby ?
Bah non, justement, moi je suis plus aux Olympiques, du coup, est-ce que tu pourrais rappeler un peu le classement ?
Oui, si tu veux. Alors,
rugby, destination, pour qu'on se tienne au courant.
La première position, donc, c'est l'Irlande qui est déjà sacrée championne avec la défaite de l'Angleterre la semaine dernière. Donc l'Irlande est, quoi qu'il arrive, champion d'Europe et va jouer son grand chelem en Angleterre la semaine prochaine. Deuxième, c'est le Pays de Galles avec 11 points.
Le Pays de Galles, ils sont bien cette année.
Le Pays de Galles, c'est un peu comme l'Angleterre et la France, et même l'Écosse au final, c'est assez inégal.
C'est vrai que là, je suis content qu'ils soient deuxième.
C'est vrai. Bah, de toute façon, ils ont qu'un point d'avance sur l'Angleterre et la France, qui sont donc troisième et quatrième à 10 points. Cinquième, l'Écosse à 8 points. Et sixième, l'Italie à 0 points. Donc, un classement où la France va jouer le podium la semaine prochaine au Pays de Galles. En cas de victoire, on serait sur le podium. Donc ce serait,
on pourrait être sur le podium.
On peut finir sur le podium.
Et dire qu'au départ, on devait avoir la
cuillère de bois. Et même pour te dire, on peut même finir deuxième. Il suffit qu'on gagne le Pays de Galles et que l'Irlande gagne l'Angleterre et on finit deuxième.
Donc c'est faisable.
Il y a encore du suspense.
Même si l'Irlande est championne.
C'est ça, ouais. C'est ça. Et même l'Écosse peut faire un coup, donc à voir.
En tout cas, les premiers, on sait qui c'est.
L'Irlande sur quoi qu'il arrive.
Et après, pour le reste,
maintenant c'est le podium qui va se jouer la semaine prochaine, donc des petites finales un peu entre guillemets. Même l'Angleterre va jouer un peu comme une finale vu qu'ils vont devoir se remettre au niveau mental, ils vont devoir remettre la marche en avant parce que la Coupe du Monde approche vite. C'est l'année prochaine, il faudrait quand même repartir sur de.
Ils vont jouer où la Coupe du Monde?
La Coupe du Monde, elle est au Japon. Au Japon 2019, Japon.
Si tu sais pas, tu demandes à Roland.
Non, mais ça 2019, Japon.
Et même que, et vous la, êtes au courant que la France va accueillir la Coupe du Monde en 2023.
2023.
Parce que 2024, je sais, il pourrait te dire, c'est les JO.
Oui, c'est les JO.
C'est-à-dire qu'on va
faire 2023. J'étais sur les JO, donc.
Ça va être un beau programme.
Ça va être un beau préparatif d'accueillir le rugby en 2023.
En plus, il y avait eu la Coupe du Monde en 2007 aussi en France. Donc ça va être intéressant, deuxième Coupe du Monde. On va voir ce qui va se passer.
Bah en tout cas, oui. Mais bon, après, là, la victoire de la France.
Oula, on va quand même pas commencer à parler l'équipe de France en Coupe du Monde. Hein.
Non, mais c'est
pas...
ça. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est vrai que c'est une petite avancée, mais je pense qu'il faudra quand même se poser les bonnes questions à la fin.
Si l'année prochaine, on fait encore un tournoi comme ça, voire un peu mieux, là, on pourra peut-être espérer un petit quart de finale ou quelque chose comme ça. Mais là, pour l'instant, ne nous brusquons pas.
Bon, allez, on fait une petite pause et puis après, on va parler du Duc d'Os, tiens. Allez, soyons fous.
Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit, tout va bien. hommes se tirent dessus. C'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Petit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien.
Ніколи не вірь тому, що написано.
Да. Да.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, Bruno, tu es vraiment le technicien high-tech, franchement.
Merci.
Non, non, mais franchement, l'entrée en matière, c'était
très fort.
C'est vrai qu'on n'a pas la caméra, il faudrait vraiment l'installer, mais on voit de suite. Non, franchement.
Ah, c'était cadré, c'était.
Ah ouais, c'était bien fait. Bravo. Et en tout cas, Aurel San, c'était pour toi.
Ouais, et merci d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup cet artiste. Depuis très longtemps d'ailleurs. Ça a été un des premiers rappeurs.
Roland, il ne connaissait pas, mais maintenant il aime.
Il y a très longtemps, depuis 6 mois.
Non, mais c'est vrai, ça fait 6 ans.
Allez, on va parler de l'UCDOS. Alors, c'est vrai que dans le sport, il y a beaucoup, beaucoup d'abréviations. Le CDOS, le CNOSF, le CROSS, le CIO, et puis les fédérations FFF, FFR, etc. Donc, est-ce qu'on peut y voir, au niveau olympique en tout cas, Roland, est-ce qu'on peut y voir un petit peu plus clair dans ces abréviations? C'est-à-dire, on a donc le CDOS, je l'ai dit, hein, Comité départemental olympique et sportif, mais après, tu as le CNOSF, tu as le CROSS, tu as le CIO, et au niveau hiérarchie, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Pour faire simple, l'instance olympique, c'est l'instance qui rassemble le monde du sport, que ça soit à l'échelon départemental, régional, national ou international. À l'échelon du Vaucluse, moi, je rassemble 54 comités départementaux qui représentent à peu près 140 000 licenciés, 260 000 pratiquants de sport sur le Vaucluse.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Et je pense qu'il est utile de le rappeler quand parfois on minimise l'impact du sport sur la société. Je pense que c'est des chiffres qu'il est bon de rappeler.
Et combien de clubs sont affiliés au CDOS?
Non, ce sont exclusivement les comités départementaux. Le CDOS rassemble le sport départemental, pas les clubs locaux.
D'accord, c'est vraiment que des...
L'instance olympique commence au niveau départemental.
Donc maintenant, on y voit. Et au niveau du CNOSF, parce que les Jeux Olympiques vont être organisés en France, mais ça, quel impact peuvent avoir les CDOS par rapport justement aux choix ou par rapport aux orientations?
La France va organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques.
Et Paralympiques, tout à fait.
Et qu'à l'échelon d'un département, nous, la carte que joue le Vaucluse, on n'accueillera pas d'épreuves. Hein, maintenant c'est joué, au plus proche il y aura des épreuves de voile et de football sur Marseille, mais la carte que nous essayons de jouer c'est pouvoir accueillir des sites d'entraînement et un certain nombre de nations qui vont pouvoir venir s'entraîner dans le Vaucluse. Donc c'est les discussions que j'ai avec Tony Estanguet et l'équipe d'organisation des Jeux Olympiques pour que le Vaucluse récupère un peu sa part de rêve et qu'on a aussi des installations et un savoir-faire sur le Vaucluse pour pouvoir accueillir un certain nombre de nations qui pourraient venir s'entraîner sur le Vaucluse.
Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, au niveau, donc, lorsque le choix de faire, d'organiser les Jeux dans un pays, en l'occurrence la France en 2024, est fait, les comités départementaux n'ont pas forcément un pouvoir de décision sur l'implantation de telle discipline dans tel endroit.
Ah oui, absolument, mais il n'y a rien de choquant là-dessus. Nous, notre responsabilité, c'est de promouvoir et d'organiser le sport à l'échelon de notre département. Après, il y a d'autres instances, notamment le Comité national olympique et sportif, qui gère ça. Mais c'est la grande famille du sport français.
Et comme tu dis, notre rôle, c'est vraiment de développer le sport. Quels sont vraiment les axes sur lesquels vous mettez toute votre énergie?
Aujourd'hui, moi, j'en suis à ma première année de mandat. Donc, à la fois, il me reste encore 3 ans. Mais ce que je peux voir, c'est qu'il faut arrêter de faire culpabiliser les clubs qui font de la compétition. Oui, il faut aider les publics les plus éloignés de la pratique sportive, mais on ne peut pas non plus faire
culpabiliser les clubs. On a le droit de faire de la compétition. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut réussir à avoir un sport qui ouvre les bras et pas qui dit oui, non, il faut absolument, Jocelyn en est le bon exemple, mais la pratique pour les personnes en situation de handicap doit être une priorité. L'accès à la pratique sportive pour les femmes tout autant. Les personnes qui sont le plus éloignées dans les zones prioritaires également. Mais on a le droit, et ça fait partie de l'ADN du sport, bah de vouloir rechercher le meilleur niveau possible. Moi, ma responsabilité, c'est d'essayer de concilier l'ensemble de ces pratiques.
Parce que tu penses ou tu vois que le sport justement de compétition est stigmatisé ?
Je vois que sur un certain nombre de politiques publiques,
Tu parles au niveau de,
je pense au niveau des financements, au niveau des financements, on demande aux associations d'aller sur un grand nombre de politiques publiques et que je comprends, mais je pense qu'il faut pas non plus se détourner de ce qu'est le sport à l'origine, qui est une confrontation saine, mais voilà, je pense qu'il faut réussir à concilier toutes les pratiques du sport.
Après, c'est vrai qu'on le voit, le sport pour tous regroupe un maximum d'adhérents, mais c'est vrai que le sport compétition, on peut le voir avec la Ligue 1 en football, on peut voir avec le Top 14, ce sont des images pour les jeunes, quoi. Ce sont des références, les joueurs, donc c'est important de pouvoir concilier les deux. Mais après, peut-être que dans un club, on ne peut pas faire les deux.
Ce que je veux dire, on en a parlé un peu en aparté, notre ministre Laura Flessel, qui connaît bien le sport, hein, championne olympique, elle fait partie de la famille, elle a mis un objectif de 80 médailles aux Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024. Mais ces médailles, où est-ce qu'elles naissent ? On se focalise beaucoup sur la finalité, mais ces médailles, elles naissent dans les clubs. Hein, les vocations, les premiers conseils techniques, l'accompagnement, c'est fait dans les clubs des territoires. Et c'est ça que j'essaie de promouvoir, c'est qu'il ne faut surtout pas s'éloigner des clubs locaux, parce que c'est de là dont viennent les pépites, et c'est là où se fait aussi le maillage du territoire et la vie partout en France.
Après, le problème, c'est que est-ce que le gouvernement, quel que soit le côté politique, hein, nous on ne fait pas de politique, mais est vraiment conscient justement, même si tu as des sportifs de haut niveau qui sont engagés dans la politique, hein, on avait Douillet, on a donc Laura Flessel, on a eu... le nouveau président de la Fédération française de rugby,
oui, La Porte
qui a fait un petit passage, etc. Le problème, c'est que quand ils passent au rang de ministre ou député, ben malheureusement, ils n'appliquent plus du tout les politiques pour lesquelles ils se battaient à l'époque, quoi. Donc c'est vrai que il y a une frontière quand même entre les deux.
Je ne vais pas faire une généralité, mais les ministres qui ont le plus pour la question du sport marqué, c'est rarement les sportifs.
C'est vrai.
Je crois que toute politique confondue, c'est une ministre non sportive, hein, qui a marqué vraiment sur la lutte antidopage, sur le financement du sport, sur cette taxe solidaire du sport professionnel vers le sport amateur. Et c'est pas souvent les sportifs qui ont été les plus grands ministres des sports. C'est pas forcément un médecin qui est le meilleur ministre de la santé. Je pense qu'on a besoin de politiques qui incarnent et qui donnent aussi les moyens. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système du sport français dont on se gargarise, qui est unique, mais qu'aucun autre pays du monde ne s'est inspiré. Peut-être qu'il faut se poser des questions. Si notre système était aussi extraordinaire, ben peut-être que d'autres pays au monde s'en seraient inspirés et qu'il faut peut-être qu'on voit une nouvelle révolution du sport français. Peut-être que le sport et les fédérations sont peut-être plus mûrs pour avoir davantage d'autonomie, être placés moins sous la tutelle de l'État, qui a peut-être même plus les moyens, et que les fédérations, c'est ce que je pense, sont suffisamment maintenant matures pour être davantage autonomes et moins sous la tutelle de l'État.
Mais quand tu dis que le modèle français, on va dire, doit être, fait l'inspiration d'autres pays, etc., de quelle manière on peut être un modèle ? Parce que honnêtement, on voit au niveau des résultats sportifs, on n'est pas les meilleurs, on n'est pas une des meilleures nations. J'ai un peu de mal ce soir. Une des meilleures nations mondiales. Au football, on voit que la France n'est pas top. Au rugby, on voit que la France n'est pas top non plus. Ouais, mais ce n'est pas forcément les...
Je me dois de contredire. En football, on fait partie des favoris de la Coupe du Monde.
En football, on fait partie des favoris. Si on regarde d'un point de vue objectif, on est les joueurs qui ont la plus grosse valeur au monde. Les joueurs ont la plus grosse valeur. On est l'équipe la plus chère. Au niveau valeur, et puis même au niveau talent, genre On est énorme, genre on est.
Bah, on verra bien, mais c'est vrai que
on est dans les 3-4 équipes favorites de cette Coupe du Monde.
Et on sera même bon. Et que pour
non, mais il faut se dire la vérité, que pour un pays de 66 millions d'habitants, les résultats sont plutôt bons avec les moyens qui nous sont donnés. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai été un des présidents de GDOS les plus dynamiques pour la candidature de Paris pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qu'il ne faut surtout pas opposer le sport des territoires et le sport de très haut niveau et les Jeux Olympiques. C'est deux financements totalement différents et que je reste persuadé qu'on a besoin en France d'avoir un peu d'élan et d'élan positif et que pour se rendre compte, c'est le plus gros événement qu'aura jamais organisé la France. C'est 203 nations, près de 3 à 4 milliards de téléspectateurs. C'est un événement hallucinant. C'est plus qu'une exposition universelle. Jamais la France a organisé un tel événement. C'est dans 6 ans et je pense qu'il faut qu'on en soit fier. Mais d'un autre côté, qu'on nous dégage aussi les moyens pour qu'il y ait cet héritage et que ça crée vraiment un élan, mais partout sur le territoire, pour que le sport ait sa place vraiment dans la société. Parce que le bénévolat peut faire beaucoup avec un peu de moyens, mais à un moment donné, on ne saura plus faire.
Bon, allez, on fait une petite pause et on continue à parler des Jeux Olympiques.
Wesh, papa, allô, tu réponds pas, tu saoules, t'es où, allô, j'ai besoin de sous, d'habits, allô, l'école ça me rend fou, je m'ennuie, allô, allô, et wesh, t'es jamais là, allô, ils disent tous que je suis riche car je suis ton fils, c'est chaud. Une star, je veux mon père, moi, allô, allô. Fils, je suis en voyage pour le taf, je m'arrête pas. Clip, concert, studio, je finis tard, ne m'en veux pas. Fils, faut délover, bientôt je vais tout stopper. 20 ans que je suis dans le game, tu grandis, je ne vois pas. Qu'est-ce qui te manque à la play? Asics, puis oui, Philippe, plein. Tout ce que tu veux, je te le paye. Mais sache qu'on a rien sans rien. Tiens-toi bien, la vie, c'est pas un film, c'est pas comme. Attends, je dois raccrocher, là je monte sur scène, rappelle-moi. Wesh, papa, allô, tu réponds pas, tu saoules, t'es où, allô, j'ai besoin de sous, d'habits, allô, l'école ça me rend fou, je m'ennuie, allô, allô, et wesh, t'es jamais là, allô, ils disent tous que je suis riche car je suis ton fils, c'est chaud. Une star, je veux mon père, moi, allô, allô. Fils, Zoro, non, parle-moi de l'école, c'est quoi cette histoire? J'ai pas de diplôme, je rendais inquiète ma mère. Seul, fais pas comme moi, je te laisserai jamais rapper, je laisserai jamais t'en fumer, jamais boire, je laisserai jamais être moi. Ouais, je t'aime trop pour ça, je sais qu'on rattrape pas le temps. J'ai raté de bons moments, quand je suis là, j'en fais trop. J'essaye de combler le manque. À tes potes que l'album arrive, qui s'inquiète pas, je suis le papa qui a le plus de style, avoue que je m'en bats. Wesh, papa, allô, tu réponds pas, tu saoules, t'es où, allô, j'ai besoin de sous, d'habits, allô, l'école ça me rend fou, je m'ennuie, allô, allô, et wesh, t'es jamais là, allô, ils disent tous que je suis riche car je suis ton fils, c'est chaud. Une star, je veux mon père, moi, allô, allô. La 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 la. Wesh, papa, allô. Can't help it, tu sois une star, je veux mon père, moi, allô, allô. La la.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, nous sommes de retour. Tiens, interrogation écrite, orale plutôt pour Valérie. Parce que Alexandre, il répond à chaque fois.
Oui, parce que je la connais maintenant.
Et c'est toujours. Et tu connais.
Le mercredi. Quand est-ce
alors,
que
quand est-ce qu'on peut nous réécouter
oui, voilà. Alors, le mercredi de 6h30 à 8h.
Ouais.
Oui, ça a changé.
Et
oui, ça a changé.
Hein, et puis, sur le www.rtvfm ou en podcast.
Point net à la fin.
Ouais, RTVFM.
Point net. Mmh. Oui, tout le monde le sait. dire.
Oui, je sais, mais bon. Voilà. Alexandre, il faut que je vous mette tous les deux au même pied d'égalité quand même.
Moi, je le répète tout le temps.
Et oui.
www.rtvfm.net.
T'aimes un peu la voix qu'elle a en plus quand elle dit ça.
Ensuite, sur le podcast que notre ami Lionel mettra mercredi dans l'après-midi. Et
j'ai la pression là maintenant.
Ah oui, là oui.
Alors déjà que j'ai la pression sur les équipes de nationales où on n'est pas d'accord avec moi, alors là j'ai encore plus la pression.
On nous retrouve sur le Facebook qui est très actif, n'hésitez pas si vous avez des questions, des... voilà.
Bravo.
Voilà, voilà.
Bon, on revient aux Jeux Olympiques.
Voilà, juste un truc. Ouais. Est-ce que vous savez combien gagne un athlète qui a une prime, hein, les primes, concernant une médaille d'or? Toi, tu me dis rien du tout, Alexandre, parce que tu vois tout.
Alors en France ou...
Oui, en France, en France.
Oui, je connais les primes.
Ouais, ouais.
Pour les Jeux Olympiques
Oui, oui.
Pour
une médaille Olympique d'or, ou Paralympique, c'est pareil. Hein. C'est
Paralympique et Olympique,
c'est
pareil.
Vous m'avez posé la question, est-ce que j'ai le droit de répondre?
Bien sûr, si tu es capable de...
Donc, c'est 50 000 euros pour une médaille d'or. De mémoire, c'est 20 000 pour une médaille d'argent et
fait.
C'est 10 000 pour une médaille de bronze.
13 000 pour la médaille de bronze.
Eh ben voilà, j'étais pas très loin.
Mais... Non, mais bravo, bravo, bravo.
Bravo, bravo.
Ah, on peut l'applaudir. Bravo,
très fort.
Ouais,
très fort.
Bravo.
Il faut quand même dire le montant, je ne sais pas s'il est choquant par sa quantité ou parce qu'elle n'est pas très importante, mais il faut dire que ça récompense
des années de travail.
Des
quand
années
même.
Et des années, ouais. Beaucoup d'incertitudes. Parce qu'on parle toujours de ceux qui ont gagné, mais il y a des gens qui se sont blessés. Ouais. Et qui étaient parfois les favoris de leur épreuve. Donc il y a énormément d'incertitudes. Et quand on ramène ça aux heures et deux heures d'entraînement, il y a eu aussi une étude qui a été faite après les Jeux de Rio. Il y a la moitié des athlètes olympiques qui vivent avec moins de 500 euros par mois.
Ah ouais, mais c'est vrai que les athlètes olympiques vont beaucoup plus travailler, vont faire beaucoup plus d'entraînement, énormément d'entraînement, pour moins de compétition par exemple que des footballeurs ou quoi. Et vont toucher... carrément moins. 50 000 euros pour certains, c'est même pas un mois.
Mais après, c'est même pas pour l'argent, parce que honnêtement, champion olympique, c'est une fois tous les 4 ans. Quoi.
Oui,
champion
vrai.
Du monde, ça peut être tous les ans. Champion olympique, c'est tous les 4 ans. Quoi. C'est vraiment quelque chose d'unique. Oui, et si tu rates ton coche, dans 4 ans.
Quand tu rates par rapport quand tu rates encore par rapport au foot, hein, parce que c'est là où il y a le plus d'argent, de toute façon. Mm. C'est là où il n'y a que ça. Quand tu rates par rapport même aux primes de match ou quoi, 50 000 euros.
Oh, bah, c'est rien.
C'est un pourboire. 50 centimes.
Et quoi. Des années de travail, c'est vrai, c'est de ça. Blessures, hein, parce que quand on parle là de jeux d'hiver, donc de ski, de snowboard, de n'importe quoi, c'est des blessures beaucoup plus importantes, je pense, qu'au foot ou
Mais par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que la prime, elle est au même niveau pour les.
Des paralympiques.
Les athlètes valides et les handicapés.
Pour les hommes et pour les femmes.
Et pour les hommes et pour les femmes.
Ce qui est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal, mais quand on voit la médiatisation qui n'est pas du tout équilibrée,
encore une fois,
c'est assez récent. Hein. Mm. Ça ne fait pas beaucoup d'Olympiades que les primes sont les mêmes hommes-femmes et olympiques et paralympiques. Mm. Mais ça va vraiment dans
Et oui, parce
bon
qu'en fait, ça c'est important d'en parler. Roland, on en parlait justement tout à l'heure pendant la pause musicale, concernant Pierre de Coubertin, qui justement, c'est lui qui a remis au goût du jour les Jeux Olympiques dans les années 1900. Mais qu'il avait plus ou moins exclu les femmes justement des Jeux Olympiques parce que pour lui, c'était pas...
Pas plus ou moins, complètement. Pour lui, sa vision du sport, c'était une vision...
Homme.
Voilà, masculine. Et qu'il y a eu vraiment un
combat...
Et il
argumentait de quelle manière?
Il l'a pas remporté, puisqu'aujourd'hui...
Non, mais il argumentait, c'est-à-dire, quel était son argument?
Les femmes à la maison.
Comme tous les hommes du 20e, je pense.
Hein. Voilà. À misogyne, c'est tout.
C'était pour lui une esthétique, mais je ne voudrais pas forcément lui faire plus de publicité. Ouais. Il a remis au goût du jour les jeux modernes, le sport le remercie, mais après, il était soit un grand misogyne, soit un homme de son temps. Mais en tout cas, j'ai noté, puisqu'on lui a rendu un hommage au niveau de l'instance olympique, c'est Alice Milia, qui a vraiment eu un combat.
Donc c'est elle qu'on peut mettre en avant, justement.
Exactement, et puis on en a parlé beaucoup le 8 mars, sur la journée internationale de la femme, mais c'est elle qui a vraiment mené un combat face à Pierre de Coubertin pour que les épreuves internationales intègrent aussi la pratique féminine.
Et maintenant, alors, est-ce que tu connais le rapport entre les hommes et les femmes au jeu? Le nombre, en nombre, tu sais ou pas?
C'est équilibré, 50-50 à peu près? Je ne peux pas répondre, non, je ne sais pas.
Ça serait bien, Valérie, parce que c'est Maître Capello, Valérie. Maître Capello, Alexandre ne connaît pas, parce que c'est de notre temps, mais c'est vrai qu'elle va essayer de regarder un petit peu. On parlait justement de cette histoire de prime. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi des Jeux Paralympiques, parce que je suis persuadé que tu promènes dans la rue, tu poses une question. Est-ce que vous êtes au courant qu'il même... y a les Jeux Paralympiques et les gens nous répondront
même,
non.
Même pour te dire, Lionel, quand au début d'émission tout à l'heure, j'étais sur l'application de l'équipe, donc qui doit regrouper a priori tout le sport, et il y avait 2018 Pyeongchang là, donc les JO, et il n'y avait pas de Jeux Paralympiques.
Non, voilà. C'est
Donc même sur des sites,
non, c'est vrai qu'il y a un gros
ça,
souci à ce niveau-là. Et justement, vous au niveau du CDOS, au niveau du CNOSF, etc. Est-ce que vous pouvez pas est-ce que vous êtes déjà vous avez contacté les grandes instances pour demander à ce que ça soit un peu plus médiatisé, parce que c'est vrai
mais c'est le cas avec France Télévisions sur France
ouais,
O et
mais France O, mais pas France 2, France 3 oui. Comme les jeux.
Voilà, c'est ça aussi, c'est qu'il
oui,
est
mais
pas
aujourd'hui
sur
avec
4,
le câble que ça soit France 4, France O ou France 2 tout le monde a le câble et c'est des
non, on
est d'accord. En tout cas, ça n'a jamais été, donc il y a vraiment un effort qui a été fait par l'instance olympique française et par France Télévisions de donner un aura médiatique beaucoup plus grand d'Olympiade en Olympiade. Donc il y a vraiment des efforts qui sont faits. Après, maintenant, il suffit de le regarder pour que de France O ou de France 4, ça passe sur France 2. Mmh. C'est aussi les taux de
oui, d'écoute.
Voilà, audience. D'écoute. Voilà, les audiences qui feront que ça passera peut-être sur une des chaînes du service public.
Mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est qu'avant,
c'était
pas du tout. Hein,
parce qu'en vrai, quand tu regardes, même si c'est, ça reste France Télévisions, ça reste France 4 et France O, soit des chaînes qui sont pas. Qui font pas énormément non plus de téléspectateurs.
D'audience, oui.
Ouais, c'est pas les plus grosses chaînes comparées, par exemple, ouais, aux France 2 ou France 3.
Moi, j'ai regardé les JO et c'était sur France 2.
Ah, ça c'est bien. Bah,
donc
ça, c'est
bien. Déjà diffusé sur France 2 et je pense que c'est une grande amélioration parce que ouais. C'est peut-être
avant,
les premiers Jeux paralympiques où c'est diffusé sur
c'est
une
vrai.
Chaîne de grande audience.
C'est
comme
vrai.
Tu
et ça, c'est
il y a le décalage horaire hein, avec les Jeux en Corée du Sud. Il y a un décalage horaire pour ceux qui ont regardé les Jeux d'hiver.
Oui.
C'est vrai que ça faut aller se lever très tôt ou se coucher très tard pour voir beaucoup d'épreuves. Donc c'est aussi plus compliqué pour voir les épreuves. Mais il y a vraiment, je veux le dire, vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits par le service public pour donner plus d'audience aux Jeux paralympiques.
Il y a des directs toutes les nuits en ce moment. Hein.
C'est ouais. Ça.
Et ils font les rediffusions à partir de 14h jusqu'à 16h
en plus.
Sur France 2 et France 3, en se repassant le relais.
Donc c'est vraiment bien parce que quand on voit, parce que là on peut parler justement des médailles, hein, parce que ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que les Jeux ont commencé paralympiques, la France est quand même deuxième. Hein. Les premiers, ce sont bien sûr les États-Unis, mais la France, 9 médailles. 9 médailles. Bon, y a l'Ukraine qui est troisième a également 9 médailles, mais le classement se fait par rapport au nombre
médailles
de
d'or.
Médailles d'or. Mais honnêtement, la France a 3 médailles d'or, 3 médailles de bronze, 3 médailles d'argent. Et franchement, c'est magnifique. Quoi. C'était
c'est
l'an dernier, il y a 4 ans, je crois qu'ils étaient 5e de mémoire.
C'est ça, ils sont partis avec
attendons la
de
fin des Jeux.
Non, oui, mais bon, là, c'est bien parti. En plus... je sais pas, Jocelyn, tu dois aller regarder régulièrement justement les Jeux paralympiques.
Je me suis mis ce week-end histoire de voir un peu les activités. Moi, je découvre beaucoup d'handisports à travers les JO aussi parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont représentées. On n'a pas l'occasion d'en voir souvent, donc il faut en profiter. Et je m'y suis mis ouais, pour regarder les performances des Français, étant donné qu'on avait énormément de médailles.
Et alors, comment tu les as trouvées ?
Ce qui est impressionnant, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il peut y avoir différents handicaps dans la même pratique avec un facteur temporel différent. Donc on a par exemple une skieuse qui avait une jambe et un bras du même côté qui pouvait concourir contre la championne française qui avait deux jambes. Et ils arrivaient avec un écart de temps différent, mais qui était ramené grâce à un calcul et une équation qui, par rapport à leur capacité, qui permettait de savoir qui avait fait la meilleure performance en fonction de ses capacités. Et on arrive comme ça à mettre des athlètes qui peuvent pratiquer ensemble et à savoir qui a fait la meilleure réalisation.
Ouais. Non mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail qui a été fait, même les guides, parce que c'est vrai que pour les non-voyants, mais il y a des guides, donc eux ils doivent s'entraîner autant que des sportifs de haut niveau, et c'est impressionnant quoi. Moi je trouve que c'est vachement plus intéressant de regarder les Jeux Paralympiques, parce que bah, déjà il y a du bon niveau, hein, et puis ouais, comme
un
tu disais
spectacle.
Jocelyn,
moi, je dis un beau
comme disait Jocelyn, c'est vrai que tous les handicaps sont représentés et donc on peut retrouver, voilà, et tout le monde peut faire du sport.
Ouais.
Et maintenant, Roland, il faudrait que les équipements sportifs puissent se mettre aux normes. Parce que là aussi, c'est un énorme problème. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais là-dessus, pour pouvoir pratiquer du sport, il faut pouvoir avoir des équipements qui nous accueillent. Qui les accueillent.
Ça fait plusieurs années que vous m'invitez.
Ouais.
Et je
ouais.
crois que sur le sujet, je suis constant.
C'est ça.
Sur la question du handicap dans le sport, il y a trois priorités. il y a développer l'activité, l'encadrer et avoir des équipements accessibles. C'est vraiment toujours sur ces trois axes que nous travaillons, mais on travaille en responsabilité sur la question de l'accessibilité avec les propriétaires des installations, qui sont en l'immense majorité les communes,
oui.
qui ne mettent pas de mauvaise volonté.
Mais, non,
mais à un moment donné, il faut aussi qu'on développe de l'activité pour donner du sens. Même si ça répond à la loi de 2005, ça donne aussi du sens de voir que l'équipement qui a été rendu accessible, il est utilisé aussi par des sportifs en situation de handicap.
Donc ça, c'est important justement. Mais après, il y a aussi un facteur qui est l'argent. Et les communes, malheureusement, avec la décentralisation, ont de plus en plus de mal à avoir l'argent. Et ça, c'est un énorme problème parce que remettre aux normes un équipement sportif, parce que bon, il n'y a pas que l'handicap physique, il y a les personnes qui sont aveugles, qui ont besoin d'un parcours sensoriel, auditif, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein.
En tout cas, ce que fait l'OCDOS en la matière, c'est aussi la rédaction d'un guide du sport et du handicap en Vaucluse qui permet aussi à une personne qui voudrait pratiquer de savoir où est-ce qu'elle peut aller. À la fois par rapport à l'accueil du club qui est adapté, hein, avec du matériel, mais aussi que l'équipement soit adapté. Mais c'est un guide qui va être amené, on l'espère, à se développer parce qu'on aura aussi développé davantage d'activités.
Très bien. Allez, on fait une petite pause.
Avant de faire la petite pause, dis-moi. Juste les résultats. Je parle en 2014, hein, au niveau olympique, il y avait 40,3% de femmes qui participaient aux Jeux olympiques.
Mmh.
D'accord. Et ce qui est bien aussi, il faut le dire, il y a 50%, parce qu'il y a d'ailleurs toutes les disciplines sont hommes et femmes. Chaque fois qu'il y a une discipline,
il y a une parité totale,
dans la 50%. Donc ça, c'est aussi pas mal.
Parce même sur
c'est vrai
l'hockey
que certaines
sur glace.
Femmes n'avaient pas. Voilà, et même oui. sur l'hockey sur glace, bien sûr.
Parce que j'ai pas vu de match de féminin.
Parce que j'ai été voir aussi Alice Milia. C'est une hockeyeuse aussi. Hein. Elle est hockeyeuse. Elle faisait pas que ça. Hein. Elle était hockeyeuse, nageuse et rameuse. Donc
une
cofondatrice et présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France.
Très bien. Allez, on fait une petite pause.
Chacun parle sa propre langue. Très souvent, elle tangue entre le yin et le yang. Tu me retiens, tu me mets des sangles. Quand tu vas trop loin, il arrive que je m'étrangle. Les mots de ma pensée m'ont parfois dépassé. Pour une fois, viens, on efface. Oublions nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai. Comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai.
Parlons sport avec Lionel, Valérie et Alexandre sur RTVFM.
Voilà, de retour dans le studio. Juste avant la pause, Roland, on parlait d'un guide pour justement orienter les personnes en situation de handicap. Alors, comment l'avoir ? Est-ce que c'est la première édition ? Et qu'est-ce qu'on a dedans ?
Alors, il est en cours de réalisation, hein, pour le dire. Donc, il faudra juste aller sur le site sur le site du CDOS, je n'ai pas l'adresse en tête.
C'est vaucluse.franceolympique.com/accueil.
C'est ça.
Mais on le mettra de toute manière dans le podcast.
Mais l'idée aussi, c'est d'accompagner les associations qui veulent développer et accueillir des personnes en situation de handicap. C'est qu'il peut y avoir une volonté, mais à un moment donné, il faut aussi guider, parce que ça ne se fait pas forcément facilement. Il y a des aides aussi sur le matériel, mais aussi pour accompagner les encadrants, pour adapter parfois leur pédagogie ou leur encadrement au niveau de la fatigabilité. Parfois, il faut adapter suivant les raisons qui ont amené à être handicapé.
Et ce guide, il sera disponible dans combien de temps ?
Oh, avant l'été.
Avant l'été ?
Oui.
Bon, mais écoute, en tout cas, c'est une très très bonne chose. Et on va parler aussi du club handisport du Comtat avec Jocelyn, le nouveau président. Pourquoi avoir choisi de t'investir dans le handicap, dans le sport
C'est à travers le sport, justement. J'étais président d'une association sportive. On a organisé une journée handisport sur laquelle on a invité les clubs, comités départementaux handisport et le CDOS. Et c'est à travers ça que j'ai rencontré Roland et les autres personnes qui bossaient pour le handisport. Mmh. Et j'ai continué mon engagement sportif à travers le handisport, le club, en y rentrant l'an dernier.
Tu faisais quoi avant ?
Avant, j'étais dans les associations sportives de l'Université d'Avignon.
D'accord. Et là, tu t'es orienté donc directement dans le handisport.
Qui n'était pas du tout un sujet de prédilection pour moi à la base. Moi, c'était plus le cyclisme. Et c'est vraiment à l'issue de cette journée que j'ai rencontré les personnes et qu'à partir de là, on a pu continuer à monter des projets. Et que ça m'a donné envie de m'investir pour leur cause et de partager leur combat parce qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et maintenant, je suis à la tête du club et on continue et ça me permet, moi, d'impulser encore plus le handisport en Vaucluse.
Alors justement, en parlant de ce club, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, présente-nous-le.
Alors, on est un bureau qui est composé de 4 personnes. On dispose d'une salariée qui réalise 35 heures par semaine sur lesquelles elle fait de l'activité adaptée à la garance, à Altin-les-Paludes. Ensuite, on a du sport santé sur Carpentras avec l'Office municipal des sports et du sport bien-être avec l'association Réseau. Mmh. Et ensuite, on essaye de développer deux choses. Un club handi-basket avec le club de basket de Carpentras et mettre en place le sport santé à travers le comité handi-sport Vaucluse sur Avignon.
Et il y avait également le Boccia Tour qui avait lieu. Est-ce que cette année, c'est reconduit ou pas ?
Alors, cette année, c'est reconduit. Ça fait déjà un an que c'est le comité du coup, qui organise le Boccia Tour pour que ce soit vraiment un événement départemental. Et c'est reconduit cette année, le 18 avril, à Lille-sur-Sorgue, pour le championnat départemental.
Donc ça sera la première rencontre, le premier tour ?
La première et unique rencontre de cette année.
D'accord, il n'y aura qu'une rencontre, ça sera à Lille-sur-Sorgue.
Oui.
Parce que c'est vrai que Roland, le Boccia Tour, ça a vraiment été impulsé par le club handisport du Comtat quand même.
Totalement, mais Jocelyn le dit... Il n'y aura qu'une étape cette année. Mm. C'est que...
C'est une volonté ou... Non.
On a failli en faire aucune.
Ah.
Mais parce qu'il y a un engouement pour lancer quelque chose et durer, c'est toujours difficile et qu'on est peu. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment aujourd'hui venir avec Jocelyn pour saluer son engagement. Parce que pour pouvoir faire fonctionner, il faut aussi du monde. Mm. Et qu'à un moment donné... On se retournait, on était 2-3, on fait des efforts sur nos vies familiales, comme tout bénévole. Hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est qu'il faut tenir et ne pas non plus négliger la partie de vie personnelle et qu'on sentait qu'on commençait vraiment à fatiguer et qu'on avait besoin d'énergie nouvelle. Et que moi, je veux vraiment encore une fois saluer Jocelyn, parce que devenir président d'un club handisport à 24 ans, voilà, c'est vraiment pour moi extraordinaire et que c'est vraiment vers ça aussi on veut promouvoir l'engagement chez les plus jeunes parce qu'on ne sera pas éternel et que je pense que ça amène sur tout un tas de nouveaux sujets une vision complémentaire et qu'on doit être en phase. Donc c'est vraiment extraordinaire. On est à ses côtés, hein, on n'a pas abandonné la cause, mais voilà, ça va peut-être aussi permettre, parce que Jocelyn le dit, il vient des associations étudiantes. On a la chance sur Avignon d'avoir une université et une filière STAPS, sport. Donc c'est une richesse pour notre département. Et donc ces étudiants, ils cherchent à la fois des terrains de stage pour confirmer les connaissances qu'ils sont en train d'acquérir. Mais derrière, c'est des futurs professionnels qui sont aussi très intéressants. Je pense notamment sur la question du handicap à la filière activité physique adaptée et santé, qui sont vraiment une filière extraordinaire pour l'encadrement des personnes en situation de handicap.
Et on voit après que les jeunes, justement, sont, comme tu disais, sont responsables, maintenant prennent la tête des clubs. Pour revenir au club de handisport du Comtat, vous avez, en fait, vous êtes plutôt un club qui proposait votre aide à d'autres structures ou plutôt vous avez vos propres adhérents?
Alors, on a nos propres adhérents qui font partie des structures, comme tu le disais. Donc, c'est vrai qu'on met beaucoup la salariée à disposition d'autres structures pour permettre l'activité handisport dans ces structures.
Donc là, vous aviez à l'époque organisé le Boccia Tour, qui est maintenant organisé par le comité. Est-ce que vous avez des projets pour l'instant en cours?
Le gros projet en cours sur lequel on travaille actuellement, c'est de développer l'handicap basket à Carpentras.
Un peu comme à Mazan?
Comme ils font, en rattacher le basket valide avec le basket handisport, que ça se passe dans les mêmes locaux et sous le même club, et qu'on apporte toute notre expertise sur le handisport dans le basket.
Et à l'heure actuelle, en club basket handisport, il y en a dans le Vaucluse ou pas?
Non, aucun.
Il n'y en a aucun. Hein. On a le hand fauteuil de Mazan qui est le handball et qui est vraiment qui marche très très bien. Après, ça serait sur le même concept que le hand fauteuil, à savoir une partie valide, une partie personne handicapée ou que des personnes en situation de handicap?
Sachant que les personnes valides peuvent pratiquer le handisport.
Oui, tout à fait. Oui, justement, oui. Donc là, ça serait justement mutualiser également. Qu'il y ait une cohabitation entre les personnes valides et les personnes en situation de handicap.
C'est une plus-value pour nous que les personnes valides aient l'envie de pratiquer le handicap.
Et là, vous êtes à quel stade justement à ce niveau-là, au niveau de la création de cette discipline?
On a fait une première journée
avec
la BC Carpentras, où on a pratiqué justement le handi-basket. Et maintenant, il faut trouver des adhérents, des personnes qui pratiquaient déjà. On sait qu'il y a des personnes qui se déplaçaient sur Marseille pour pratiquer le handi-basket et qui devait faire de nombreux kilomètres. Donc si on ouvre cette section sur Carpentras, ça leur évitera peut-être de nombreux kilomètres. À nous, ça nous permettra d'avoir des personnes pour pratiquer cette activité sûrement toutes les semaines comme n'importe quel club.
Oh, c'est bien ça. Franchement, c'est super. Ouais.
Pour ajouter, avec le département de Vaucluse, l'instance olympique a honoré ce dispositif sur le prix de l'innovation et de l'ambition sportive dans notre dernier trophée des sports qui ont lieu à Mazan il y a quelques semaines. C'est vraiment ça. Il y a une expertise basket du club de Carpentras et une compréhension de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et le matériel, puisque le club bénéficie des 8 fauteuils qui appartiennent au comité départemental. Parfois, pour créer une section, une équipe, investir 20 ou 30 000 euros dans des fauteuils sans savoir si ça va prendre. Là, le matériel existe et permet de lancer la section.
C'est-à-dire que vous, à disposition, il y a 8 fauteuils de disponibles?
Absolument.
C'est bien ça, parce que c'est vrai que le fauteuil... On en parlait justement avec les responsables du hand ensemble de Mazan, et c'est vrai que également avec le rugby fauteuil André Ferrin qui œuvre énormément sur Avignon, et ça coûte très très cher. Et c'est vrai que les fauteuils de sport ne sont pas les fauteuils du quotidien, et ça c'est un énorme problème aussi. Donc au niveau des budgets, est-ce que vous, au niveau du CDOS, vous pouvez soutenir ces opérations-là?
Oui, à travers le CNDS, ça reste une des opérations prioritaires. Mais il faut mutualiser, c'est ce qu'on dit depuis des années. Et le blocage, c'est au lancement. Après, qu'on s'achète son propre kayak, qu'on s'achète son propre vélo, c'est pouvoir accrocher, il faut le premier matériel. Et ensuite, on va se personnaliser son matériel. Mais donc, le fait d'avoir une première flotte de fauteuils qui puisse être mis à disposition pour créer l'activité et ensuite la rendre autonome, ça paraît un schéma d'avenir.
Et Jocelyn, au niveau justement de la création du club, une personne qui est intéressée, qui nous écoute, elle doit prendre contact avec toi. Le club, il est créé ou on va dire la discipline est créée pour l'instant ou vous attendez plutôt des retours d'adhérents?
Non, c'est en cours de création pour l'instant. On n'a pas encore mis en place d'entraînement et de période de pratique.
Et est-ce que tu as une estimation du délai?
On espère le mettre en place en septembre.
En septembre?
À la rentrée.
Donc... au niveau du club, quelles sont les autres activités que vous proposez?
La boccia, essentiellement, c'est une activité qu'on a beaucoup de facilité à mettre en place. On peut également proposer de la sarbacane, de la joëlette. C'est quelque chose
la Attends, énormément. Je te coupe, la sarbacane?
Oui, c'est comme un sport de visée comme le tir. Et ça peut se pratiquer uniquement avec la bouche, ouais. Grâce à un trépied. Donc c'est très accessible pour les personnes paraplégiques ou tétraplégiques.
T'as déjà pratiqué, Roland, la sarbacane?
Absolument, oui.
Et alors, t'es bon?
Non. Non, mais c'est ça qui est aussi sympa, c'est de pouvoir s'affronter.
Bah oui.
Donc c'est vraiment, comme le dit Jocelyn, une épreuve de précision. Mm. Mais pour la première fois, le club a obtenu le financement grâce à la fondation du Crédit Agricole, Le Sport S'Engage, le financement d'une joëlette. C'est qu'à chaque fois que le club avait besoin d'une joëlette, il était obligé de le louer aux Bouches-du-Rhône. Donc là, dans quelques semaines, le club va être propriétaire de sa propre joëlette. Et donc, pour pouvoir, je sais qu'à la prochaine Carpentras Night Fever le 31 mars, bah depuis plusieurs années, le club permet à des personnes en situation de handicap de participer à l'événement.
Justement, il y a deux joëlettes qui concourent. Cette année, ça sera pareil ou...
Oui, c'est deux joëlettes, mais qui sont louées au comité des Bouches-du-Rhône. Mais là, dans quelques semaines, le club sera propriétaire de sa propre joëlette.
Je suis peut-être bête, mais c'est quoi une joëlette,
Jocelyn?
Eh ben, c'est un appareillage avec une roue et un frein à disque comme un VTT. Où on peut poser une personne en situation de handicap dessus, encadrée par 6 personnes qui lui permettent de se déplacer. Une seule roue, comme ça, on peut même partir sur des randonnées dans le Ventoux.
Il y a un siège au-dessus de la roue, hein. La personne n'est pas assise sur la roue. Hein.
Oui, non, c'est comme une diligence, c'est très bien installé dessus.
C'est okay. Comme une chaise porteuse, mais ouais. Qui repose aussi sur une roue avec un frein et qui permet, comme le dit Jocelyn, à la fois de participer à des courses à pied, d'accord. Mais aussi des randonnées.
Un peu comme la place dans les grosses motos, les sidecars, là, les espèces ouais. De motos avec la place à côté. Là.
Non, pas du tout.
C'est un peu le même principe.
Et c'est vrai que les joëlettes, elles participent à de nombreux événements sur le territoire. La Colors.
Il y a beaucoup de courses à pied sur le Comtat Vénessin. C'est vrai qu'on essaie de participer au maximum à la Color Run, à la course de la Belle Échappée, à la Night Fever. Et on est souvent sur des activités avec la joëlette.
Et donc là, oui.
Mais bon, Jocelyn a dit quelque chose de très important. Une personne sur la joëlette, 6 personnes à l'encadrement. Pour vous donner le
et
ratio.
Pas l'inverse, hein.
Voilà, non mais ça veut dire pour que, amener une personne.
T'as de l'humour.
Ouais, faut arrêter. Oui. Sécurité, vous me sortez ce jeune homme. Non, il faut se rendre compte qu'il faut à chaque fois qu'on trouve 6 personnes pour pouvoir amener une personne pratiquer. Ça se voit dans aucune autre activité sportive. Donc il faut avoir une mobilisation.
Un vivier de
porteurs. Tu as toute
ton
équipe, Jocelyn, pour le 31 mars?
Justement, je crois qu'il y a un souci.
Il manque encore 6 personnes à peu près pour la deuxième joëlette. Pour l'instant, on a suffisamment de personnes que pour une seule joëlette. Et donc, si vous souhaitez vous investir en tant que bénévole pour permettre à une personne en situation de handicap de courir lors de la Night Fever, vous pouvez envoyer un mail à chcv@laposte.net.
Bon, bah écoute, et je crois qu'il y a un numéro de téléphone aussi.
On peut aussi donner le numéro de téléphone, ce sera plus compliqué. C'est le 07 63 93 05 33. C'est le numéro de la salariée du club qui vous répondra et vous accueillera.
Bah écoute, tu l'as dit avec tellement d'aisance qu'on va tous le mémoriser sans problème. Mais pour t'aider, on le mettra sur le podcast, comme ça au moins, il y aura tous les renseignements. Mais c'est vrai que c'est important parce que donc, la Carpentras Night Fever, c'est le 31 mars prochain. Et il manque quand même encore 6 personnes. Quoi. Donc c'est beaucoup. Et donc la joëlette, en fait, elle fait le parcours de la Carpentras.
Absolument.
En courant. Et il court derrière ou...
On court à côté.
Faut être sportif aussi pour participer.
Ouais, c'est plus physique que de courir les 3 km.
Ouais,
c'est comme si on en faisait 9 à peu près.
Bon. C'est plus physique et on a la responsabilité d'une personne qui peut être fragile. Donc il faut garder toujours la lucidité.
Bon, en tout cas, bon, l'émission, vous entendez la petite musique, elle se termine. C'est toujours trop court, 2 minutes. Hein. Mais ça sera le moment justement de donner... est-ce que vous avez un site internet, une page Facebook?
On a une page Facebook qui s'appelle Club Handisport Comtat Vénessin. Vous pouvez retrouver là où on publie toutes nos activités et tout ce qu'on réalise durant l'année.
Et au niveau d'un site internet, est-ce qu'à un moment il y avait un site?
Il y avait un site, mais on se contente plus de la page Facebook, c'est plus simple pour,
c'est pour communiquer
avec les personnes et partager des publications.
Et toi Roland, donc on a donné tout à l'heure l'adresse du site internet, hein, vaucluse.franceolympique.com.
Et on a notre page GDOS Vaucluse qui marche très très bien également.
Qui marche très bien aussi.
Oui, oui, oui.
Bon, alors donc on va pouvoir se retrouver pour la Carpentras Night Fever, hein, Jocelyn.
Le 31 mars.
Voilà, les personnes intéressées donc n'auront plus qu'à contacter le numéro de téléphone que je mettrai dans le podcast et également l'adresse mail.
Ou via la page Facebook également.
Et la page Facebook. Mais en tout cas, merci vraiment à tous les deux, hein, Roland Davo, président du DOS 84. Je termine difficilement. DOS 84.
Faut que ça s'arrête là.
Faut que ça t'arrête. Jocelyn Dalmo, président du club handisport du Comtat Venaissin. Merci vraiment à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
C'est un plaisir de venir.
Merci mon petit Alexandre.
Merci à toi.
Et on va pas appeler la sécurité.
Non, pas besoin.
Merci ma petite Valérie.
Bonsoir à tout le monde.
Merci mon petit Bruno. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire de la randonnée pédestre. Soyons fous. Allez, bonne semaine sportive à tous et à toutes.